La musique, c'est vraiment une façon de vivre et pas quelque chose qu'on fait pendant les week-ends. La musique, c'est pas seulement ce qu'on fait sur scène, c'est quelque chose à laquelle tu donnes ta vie, c'est comment tu es, comment tu vis et ce que tu fais.
La Belle Pop, Vincent Théval.
Bonsoir, très heureux de vous retrouver ce soir pour une émission largement consacrée au compositeur américain Moondog, dont on fête cette année le centenaire de la naissance. L'occasion de revenir sur le parcours hors du commun de celui qu'on surnommait le Viking de la 6ème avenue. Un personnage extraordinaire, une vie romanesque et surtout une œuvre protéiforme qui est allée chercher la beauté dans le jazz, l'écriture classique, l'expérimentation et la pop avec toujours la même rigueur et la même exigence. Amaury Cornu, auteur d'une remarquable biographie de Moondog, est à mes côtés ce soir pour cette 162e édition de Label Pop. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 21h30 sur France Musique, profitons-en. Grosse actualité de la semaine, l'énorme actualité de la semaine, c'est la parution du coffret Day of the Dead, un projet pharaonique développé depuis 4 ans par Aaron et Bryce Dessner, qui sont les guitaristes du groupe The National. Compilation qui est réalisée au profit de l'association Red Hot, qui lève des fonds pour la lutte contre le sida, et surtout compilation hommage au groupe de rock psychédélique Grateful Dead, grosse influence pour les frères Dessner. Alors on participait à ce projet plus de 60 artistes pour un total de 59 titres et 6 heures d'enregistrement qui sont réparties sur 5 CD. Le casting est absolument stupéfiant avec des grands noms de la scène rock ou folk contemporaine, mais aussi des artistes qui travaillent dans le champ de la musique contemporaine, comme Terry Riley, Soul Percussion ou Stargaze. Dans la liste des contributeurs, on peut citer comme ça aux débeautés Bon Iver, Courtney Barnett, Anony, The Walkman, Will Oldham ou encore les Flaming Lips. Et le morceau qu'on vient d'entendre, Cassidy, était interprété par le jeune Californien Moses Sumney avec Jenny Lewis. On va écouter un autre extrait de ce coffret Day of the Dead, celui-ci magnifiquement interprété par la Française Mina Tindall. Mina Tindall qui est la voix du générique de la Belle Pop.
Peace.
Et on débute notre ascension de l'œuvre de Moondog par la face pop avec Do Your Thing, extrait de l'album Heart Song, paru en 1978. Alors on va entendre des choses très différentes ce soir, guidées par Amaury Cornu, auteur de l'excellente biographie de Moondog, paru en 2014 aux éditions Le Mot et le Reste, un livre qui est particulièrement d'actualité cette année puisque c'est le centenaire de la naissance du compositeur. Bonsoir Amaury.
Bonsoir.
Alors est-ce qu'on peut dire de Moondog, que c'est un célèbre inconnu, un inconnu célèbre, je ne sais pas comment formuler.
Eh bien, oui, tout à fait. Moi, c'est quelqu'un que j'aime à définir depuis quelques années maintenant comme un inconnu légendaire. Donc, c'est assez proche de votre formule. Et parce qu'il y a, chez Moondog à la fois le fait que tout le monde le connaît à travers, d'une certaine manière, cette mélodie qu'est Birds Lament, qui est son véritable tube qu'on va écouter un peu plus tard dans l'émission, et le fait qu'on connaît très peu la vie du monsieur qui a composé ce tube et tant d'autres morceaux, comme ce très beau Do Your Thing et bien d'autres choses. Donc il y a vraiment ce jeu de miroir que Moondog aimait beaucoup cultiver, qui se traduit également par le fait qu'il fascinait l'élite depuis les années 50 jusqu'à nos jours, et tout en étant extrêmement populaire également. Et Do Your Thing en est un très bon exemple, puisque l'écriture est très très savante et très très complexe, et en même temps ça sonne comme un morceau diablement pop. Donc oui, c'est tout à fait juste.
On va évidemment détailler son parcours et son parcours musical, sa vie romanesque, on peut dire. En commençant peut-être très simplement par son enfance, il vient d'où Moondog? Louis Hardin,
son vrai nom. Oui, il n'est pas né Moondog, évidemment. Il est né dans le Kansas, à Marysville, donc le 26 mai 1916, donc on est vraiment très proche du centenaire, effectivement. Et il naît d'un père prêtre passionné par les ragtime et les marches militaires, donc des musiques avec des esthétiques musicales où le rythme est très très important, et d'une mère professeure d'orgue, donc l'orgue, le clavier, la musique classique, donc qui vont bercer toute son enfance et qui vont avoir évidemment une influence sur son œuvre en devenir, puisqu'on verra que c'est la confrontation entre des schémas très très classiques et une écriture rythmique avant-gardiste.
Alors, parmi les signes distinctifs de Moondog, hein, au-delà du casque de viking, des habits, on va y revenir, c'est que c'est un compositeur qui est aveugle, hein, il devient aveugle, il n'est pas comme ça. À l'âge de 16 ans, c'est un accident, il manipule un bâton de dynamite, comme ça, qu'il trouve sur le bord d'une voie ferrée.
Exactement.
Quelques années à peine après cet accident, il étudie la musique, oui. Mais parallèlement, il est... Tu dis aussi en autodidacte, à la fois en école et à la fois pour lui.
Oui, bah sa cécité lui ouvre effectivement les portes d'école de musique. Et en même temps, lui qui s'intéresse essentiellement à la musique classique du continent européen est en décalage avec les enseignements modernes de l'Amérique de cette époque, et donc travaille aussi de son côté sur notamment l'étude du contrepoint, des formes de musique plus anciennes qui n'ont plus vraiment voix au chapitre à cette époque-là. Et donc en autodidacte, il va se passionner pour les grands compositeurs européens.
Alors le vrai début du parcours, alors je parlais de cette expression, le viking de la 6e avenue, les vrais débuts c'est donc son arrivée à New York en 1943, il va y passer une trentaine d'années quasiment, alors 30 ans dans la rue ou presque. Ça, c'est quand même un signe distinctif qui frappe forcément l'imagination quand on parle de Moondog.
Oui, c'est vrai qu'il est, on, on, on l'appelle, enfin, le clochard céleste, effectivement, est une très belle expression qui lui convient parfaitement, puisqu'il va passer plus de 25 ans dans les rues, sous les porches, par souci d'économiser de l'argent pour pouvoir payer des copistes pour transposer son œuvre, qu'il compose en braille ou qu'il dicte. D'une part, par passion aussi pour les Amérindiens et pour la vie nomade qu'il essaie de reproduire, même si ça paraît fou, au cœur de la Big Apple et de Manhattan. Et parce que les rues de New York, le tumulte des rues va nourrir son travail de composition. Il va se nourrir de tous les bruits, de tous les rythmes, de toutes les ambiances que ça implique, et transposer ça dans sa musique de façon assez formelle des fois, et aussi de manière très très concrète, puisqu'on va entendre sur les premiers enregistrements des bruits des voitures, les sifflets des flics, des discussions avec des passants. Donc tout ça va le nourrir pendant très longtemps avant qu'il finisse par se dire que peut-être ça le dessert.
Vous citez l'influence des Amérindiens sur son mode de vie, alors évidemment sur la musique, puisque les premières choses auxquelles il s'attaque, c'est les percussions. Oui. Avec notamment la lutherie, enfin, il fabrique lui-même ses propres instruments.
Oui, ça c'est assez fascinant également, le fait que... alors il y a un rite initiatique qui a lieu pendant son enfance, qu'on peut mentionner, qui est le fait que son père, qui évangélisait des réserves indiennes, l'amène un jour avec lui visiter une réserve indienne, où il le présente à Yellow Calf, qui est un chef indien important, qui assoit le jeune homme sur ses genoux pour lui faire battre le rythme de la danse du soleil, donc un rite sacré des Indiens des plaines. Et effectivement, cette pulsation vitale, tribale, va accompagner le futur compositeur tout au long de sa carrière. On va retrouver ça dans les premiers enregistrements des années 50 qu'on va écouter, mais ça se retrouve également dans des enregistrements très tardifs à la fin des années 90, notamment un disque pour ordinateur où on va retrouver des pow-wow et tout ça. Donc tout ça, ça l'intéresse, et il va effectivement pour développer ses percussions, et par souci de créer une œuvre nouvelle qui passe notamment par des sonorités nouvelles, il va développer un travail de lutherie. Alors voilà comment ce sans-abri aveugle, coiffé d'un casque à cornes, invente des instruments aussi fascinants que la trimba, qui est une percussion triangulaire. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un instrument un peu oublié, que j'ai débauché une équipe de d'ébénistes et de luthiers très récemment pour refabriquer cet instrument, et ils galèrent. Donc pour les motiver, je leur dis que ça a été quand même inventé par un clochard aveugle dans les années 50, mais c'est vraiment un instrument très bien conçu, et on va en entendre, je pense, plusieurs bouts de parcelles.
On va écouter un extrait de ces fameux enregistrements dans les rues de New York en 1953. Chant de Moondog dans les rues de New York en 1953. Alors l'avantage, si on peut dire, d'être dans les rues de New York, c'est qu'on croise beaucoup de gens, oui. Et qu'on est rapidement, surtout quand on est comme lui, très identifiable, affublé comme ça de signes distinctifs. On croise des musiciens. Alors il va notamment se lier d'amitié avec les musiciens du Carnegie Hall et du New York Philharmonic.
Exactement, et qui vont être ses premières belles rencontres. Le Philharmonique de New York était dirigé par Rodzinski. À cette époque, il va prendre soin de Moondog, qui va se présenter à lui comme un jeune compositeur. Et donc, Rodzinski va lui ouvrir les portes des répétitions du Philharmonique. Quand on disait tout à l'heure que le Moondog a passé 25 ans de sa vie dans les rues, évidemment, ça n'a pas été le cas systématiquement. Il n'a pas passé tous ses hivers habillé en viking sous les porches. Et Rodzinski, ça fait partie des premières personnes qui vont l'aider, lui filer des vêtements, le nourrir, aller jusqu'à payer un spécialiste de la vue pour voir s'il pouvait recouvrer la vue. Et lui présenter son assistant, Bernstein, ainsi que les musiciens du Philharmonique de New York qui vont devenir ses amis et plus tard ses premiers interprètes. Et donc ça, c'est pour le côté effectivement philharmonique, mais dans les rues, où il va finir par très très vite en fait devenir une icône véritable. Faut imaginer qu'il y a des hôtels qui disaient pour nous trouver, c'est facile, on est en face de Moondog. Donc quand vous dites qu'il est identifiable, c'est tout à fait juste. Des agences de voyage qui disent venez à New York, vous allez voir Moondog. Et effectivement, le monde du jazz qui se prend de passion pour Moondog. On peut citer Dave Brubeck qui l'invite. Première partie d'un de ses concerts, Benny Goodman qui dira de Moondog que c'est quelqu'un de fascinant, évidemment Charlie Bird Parker, à qui Moondog dédiera son fameux tube légendaire. Donc oui, c'était pour lui les rues aussi l'occasion évidemment de multiples rencontres qui vont dans un premier temps l'aider.
Alors ces accointances avec le monde du jazz vont trouver un premier aboutissement très vite en 56 puisque un premier véritable album de Moondog paraît et il paraît sur le label Prestige Records. On va écouter un extrait de ce disque To a Seahorse.
Thank you.
Vous écoutez La Belle Pop sur France Musique et je suis en compagnie d'Amaury Cornu, auteur d'une biographie de Moondog parue aux éditions Le Mot et la Reste. Là, on vient de faire un bond de 13 ans hein, entre les qui séparent les deux morceaux, en tout cas les deux enregistrements, effectivement. On parlait de jazz. Le titre qu'on vient d'entendre, Symphonique 6, Good for Goody, est un hommage
à Benny Goodman.
Voilà. Alors, vous avez cru utile, effectivement, de préciser qu'il y a 13 ans entre les deux enregistrements, mais pas entre l'écriture, puisque le titre qu'on vient d'entendre et beaucoup de ceux qui sont sur l'album paru en 69, le fameux Moondog, ont été composés dès les années 50.
Oui, tout à fait, et composés à une période assez proche du chant indien qu'on a écouté, donc ça peut paraître un peu déroutant, mais ça s'explique très facilement par le fait que Moondog démarre sa carrière finalement assez seul. Donc il joue sa musique lui-même, il joue tous les instruments, il superpose les voix, il s'enregistre puis se réenregistre. Donc ça c'est parce qu'il fait avec les moyens du bord. Mais ses pièces orchestrales, il les a déjà à l'esprit, il les a déjà en tête. Il a juste pas les moyens de réaliser tout ça. Et c'est plus tard quand effectivement la Columbia qui édite le disque Moondog en 69 passera les rênes du Philharmonique de New York, de ses anciens camarades, qui pourra enregistrer ses pièces. Mais c'est fascinant de se rendre compte que dans sa tête, tout est présent très très vite, en fait. Et même le chant, justement, indien, c'est intriguant de voir qu'il a aussi, malgré le fait que ça ressemble à une petite miniature improvisée, tout est écrit et il écrivait les mélodies de chacun de ses petits morceaux pour les éditer, pour les vendre aux passants. Donc il avait déjà cette idée de répertoire, en fait. Répertoire un peu miniature, mais répertoire quand même.
Alors miniature, dans ce disque, il y a le concept de minissim.
Oui, miniature symphonie.
Tout simplement, voilà. C'est très joli.
Ben oui, c'est voilà, il adorait les mots valises. Oui, c'est l'idée. Quand on connaît pas trop Moondog, on peut se dire qu'effectivement son œuvre symphonique est petite. En l'occurrence, c'est plus subtil que ça. Mais comment il a enregistré aucune de ses symphonies. Il en a composé 81 de véritables symphonies. Mais déjà d'une part, il y en a beaucoup qui sont encore aujourd'hui qu'en braille, puisque l'œuvre est colossale. Et donc c'est plusieurs soixantaines d'instruments. Enfin, c'est un travail colossal pour l'esprit d'un homme aveugle. Mais ces miniatures symphonies, ces symphonies miniatures, c'était la façon pour lui de présenter sa pensée orchestrale symphonique en des morceaux très très courts et finalement très très pop.
Dans cet album de 1969, qui paraît donc sous le label Columbia, et dans le livret plutôt de ce disque, il y a un texte où Moondog tient à se démarquer des minimalistes auxquels il est assez systématiquement associé à l'époque, encore aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Ça c'est plutôt intéressant parce que il se réfère davantage à une culture musicale bien plus ancienne.
Oui, mais tout au long de sa vie et dès qu'on lui laissait parler de ça, effectivement, il s'opposait farouchement à la musique atonale et aux musiques modernes, hein, comme je le disais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'il a été sacré père fondateur de la musique répétitive par Steve Reich et Philip Glass, Philip Glass a hébergé Moondog un temps à la fin des années 60, donc quelques mois avant que Moondog enregistre cet album. Lui, il s'opposait à cette appellation, estimant que les musiques répétitives, minimalistes, répétitives surtout en fait, minimalistes, c'est Tom Johnson, c'est encore autre chose, mais les musiques répétitives existaient dès les premiers peuples avec la pulsation tribale amérindienne et les pulsations du monde, dont vont se nourrir les répétitifs en grande partie. Et puis on retrouve également à travers les canons, les formes de musique anciennes, la répétition de formes mélodiques. Ce que Steve Reich et Philip Glass savaient très bien. Steve Reich a fait son mémoire sur Perrotin, compositeur du 13e siècle, pardon. Mais la phrase était pertinente quand même, parce qu'effectivement, en utilisant la répétition des bourdons, des notes continues, dès le début des années 50, il anticipe avec près de 20 ans d'avance les répétitifs à venir, qui sont nés bien après lui. Hein, Steve Reich, c'est 1937 et Philip Glass, 38, et lui, 1916.
Il y a quelque chose d'un peu intriguant dans l'œuvre de Moondog, ou plutôt dans la façon dont elle a été accueillie à l'époque, toujours aujourd'hui peut-être. On a parlé de ces musiciens de jazz, de ces labels même de jazz qui accueillaient Moondog. On pourrait dire un mot de toute la scène, certains artistes de la scène rock, puisque Janis Joplin, par exemple, reprend une mélodie de Moondog. Oui. On le croisera plus tard avec des gens comme Elvis Costello ou au sein des transmusicales. Enfin voilà, le rock lui ouvre aussi ses bras.
Oui.
Et entre les deux, le monde de la musique classique
qui un peu aux abonnés absents, si on sans omettre justement Philippe Glass, Rodzinski, Stravinsky, qu'il défend un procès dans les années 50, mais effectivement il est très peu considéré par les gens du monde classique de manière générale, parce que encore il y a des exceptions évidemment, je sais que il intrigue quelqu'un comme Pascal Dussapin par exemple, Jean-Jacques Lemaître qui compose pour Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil, qui est un compositeur, a beaucoup défendu la musique de Moondog. Mais de manière générale, effectivement, son écriture, l'aspect un peu naïf de sa musique a tendance à dérouter les compositeurs peut-être un peu trop sérieux, même si le caractère difficile de sa musique existe justement par cette naïveté, cette fausse simplicité. Mais lui qui voulait entrer au panthéon des grands de la musique classique, effectivement, c'est peut-être trompé de case ou en tout cas de quête. Mais c'est des gens qui sont pour l'instant encore passés pour la plupart à côté de sa musique.
Sur ce fameux Moondog de 1969, il y a la chanson Bird's Lament, ce morceau qui est très célèbre. On va l'écouter tout de suite, mais dans sa version de 1994 sur l'album Sax Pax for a Sax. Bird's Lament de Moondog, 25 ans après son premier enregistrement, témoignage d'un morceau qui a lui aussi évolué à Maurice Cornu.
Oui, continuellement, comme beaucoup de morceaux de Moondog, puisqu'effectivement il enregistrait des fois des versions très précaires de mélodies avant d'avoir les moyens de les enregistrer dans de meilleures conditions. Et ce qu'on peut dire sur Bird's Lament, évidemment c'est devenu cet hommage à Charlie Parker, mais à la base c'est justement des premiers quatuors à cordes que Moondog compose, et lorsqu'il apprend le décès de Charlie Parker au début des années 50, il rajoute cette partie de saxophone alto en hommage à son vieux camarade. Et même si cette version est moins courante que celle de 69, qui est très connue, qui va être celle remixée par Mr. Scruff, c'était la version préférée de Moondog, parce qu'il y a un côté effectivement plus solennel, plus lent dans cette version.
Vous avez mentionné tout à l'heure près de 80 symphonies écrites, la plupart non éditées parce que toujours en braille. Il y a comme ça énormément de... Il y a une partie souterraine de l'œuvre de Moondog, ça c'est assez intriguant également.
Bah oui, parce qu'il est lui-même... Il est présenté régulièrement comme un compositeur souterrain, et il y a encore des couches en dessous qui sont, il est plus souterrain que ce qu'on voudrait bien imaginer, puisque toute une partie de son œuvre est encore composée et encore constituée de feuillets en braille, d'une part, parce qu'il y a aussi des partitions qui ont été transposées vers l'écriture classique, mais jamais jouées pour autant en live ou parfois même jamais enregistrées. C'est très vaste, c'est vaste d'un millier d'œuvres. J'ai recensé comme ça près d'un millier de titres différents qui constitue cette œuvre, cette œuvre monde.
Écoutez La Belle Pop sur France Musique et je suis en compagnie d'Amaury Cornu pour évoquer Moondog. À l'instant, c'était Maybe, un extrait de l'album Moondog 2 paru en 1971. C'est un morceau qui questionne l'idée de notoriété. Et alors, à cet égard, Moondog, il va quasiment tout perdre en quittant New York en 1974 pour se rendre enfin en Europe, la terre de ses grandes inspirations, et plus précisément en Allemagne.
Oui, à Francfort, effectivement. Au début des années 70, lorsqu'il édite cet album Moondog 2, qui sort donc en 71, et qui fonctionne pas très bien, en fait. Aujourd'hui, c'est un album un peu chouchou des fans de Moondog, mais à l'époque, justement, il est trop naïf pour les gens de la musique savante, et peut-être trop prout pour les gens de la pop, mais il trouve pas son public et il se rend compte à ce moment-là effectivement qu'il a peut-être dépassé par ses excentricités, par sa posture de viking bizarroïde. Il ne pourra peut-être rester aux yeux des New-Yorkais, des Américains, que cette espèce de freaks un peu bizarre et ne pas accéder à ce statut de compositeur sérieux auquel il aspire. Et il a la possibilité de venir donner des concerts à Francfort, effectivement deux concerts. À la base, il vient par plaisir en Allemagne. Il décide très vite d'y rester et d'y finir ses jours.
On peut dire un mot sur un projet qu'il entame en 71, un peu avant de partir en Allemagne, et sur lequel il va beaucoup travailler précisément en Allemagne, un projet assez pharaonique qui s'appelle The Creation. Oui. En quelques mots, parce que c'est un truc... Amaury, quand on regarde la pendule...
The Creation, c'est quelque chose effectivement qui va lui prendre plusieurs années de sa vie pour finalement pas grand chose d'un certain point de vue, si on peut parler de point de vue chez Moondog, puisqu'il n'enregistrera que très peu d'éléments liés à The Creation. C'est une œuvre grandiose, inspirée de la mythologie nordique et des œuvres wagnériennes. C'est des pièces complètement folles qui mêlent de la poésie notamment, donc des poèmes de 900 pieds tout en rimes sur les mythes nordiques, sur fond de canons pour 50 trombones par exemple, ou pour des pièces Cosmos notamment pour 9 heures de musique et plusieurs milliers de musiciens. Donc des choses comme ça, oui, pharaonique, vous avez utilisé le mot, il y a de ça.
On va écouter un morceau beaucoup plus modeste, hein, si on peut utiliser cette expression. Un titre très émouvant, notamment parce qu'il est extrait de l'ultime concert que Moondog a donné. C'était à Arles en 1999. Oui. C'est un titre qui date de la fin des années 70, mais qui est enregistré à Arles à la fin des années 90. La Chaconne in A minor, interprétée par la pianiste française Dominique Ponty, œuvre de Moondog jouée à Arles donc en 1999. Alors, Moondog en Allemagne, il peut évidemment rayonner un petit peu en Europe. Il va en Suède, il va un peu plus tard en Angleterre. Et puis, quand même, Moondog a une histoire particulière avec la France et, disons-le, avec France Musique.
Oui, c'est vrai. C'est quelqu'un qui va être beaucoup défendu, comme beaucoup d'ailleurs de ses contemporains, par Daniel Coe, qui est une espèce de modèle pour moi. J'en parle avec beaucoup d'émotion. Qui va organiser des concerts, notamment pour faire jouer sa musique avec la complicité de Jean-Jacques Lemaître, dont on a parlé tout à l'heure. Donc effectivement, il y a un concert en 82 qui est enregistré à la Maison de la Radio, dont j'ai récupéré récemment les archives. Oui, et puis la voilà, je pourrais.
Je sais pas. En 82, c'est France Culture, hein, c'est dans le cadre d'une biennale des ateliers de création radiophonique.
Exactement.
Et si ma mémoire est bonne, à la fin des années 70, Moondog vient à l'invitation de France Musique pour jouer à la salle Gaveau.
Oui.
Et il répète dans la maison de la radio où on se trouve présentement.
C'est ça, en 76, il vient jouer à Gaveau pour la première fois. Libération, titre Wagner à Disneyland. et voilà, un concert mémorable.
Dans la lignée de ces relations avec la France, il y a aussi un concert de Moondog au Festival des Transmusicales à Rennes en 88.
En 88, les Transmusicales et Jean-Louis Brossard font un très beau cadeau à la musique de Moondog, puisqu'il lui offre l'orchestre de Rennes, aspirant orchestre de Bretagne. Et surtout la possibilité de travailler avec cet orchestre pendant plusieurs jours, ce qui était assez rare. Donc la possibilité de travailler des œuvres orchestrales. Et Moondog amène avec lui notamment sa symphonie numéro 28, la symphonie celte, dédiée aux déesses celtes, à Vercingétorix et à Jean-Jacques Lemaître, qui est un peu notre Moondog à nous, et un géant aussi à sa manière. Et il y a cet événement, j'imagine qu'on doit en parler peut-être, mais voilà, c'est le drame de la vie de Moondog. Mais le fait est que un documentaire était réalisé à cette époque par Yves Breu, qui filmait Moondog à Carnac, dans les menhirs de Carnac, sur le miroir au fait de Brocéliande, donc effectivement un terrain de prédilection, son stamping ground d'une certaine manière. Et il le filmait également le concert, il l'a filmé plus que de raison, et pour des raisons syndicales, en plein milieu du premier mouvement de cette symphonie celte, les musiciens ont quitté le plateau. Et au-delà de cette histoire un peu dramatique, Moondog étant sur scène, hein, à diriger la musique depuis sa grosse caisse, au-delà de cette histoire, peut-être je peux relier ça avec mes travaux aussi, puisque j'ai retrouvé les traces de Yves Breu et du producteur, donc le réalisateur et du producteur, et je cherche actuellement à faire sortir de terre ces bandes que personne n'a vues depuis 27 ans. C'est facile à calculer, mon année de naissance.
Alors, cette expérience à Rennes, elle tourne court, elle tourne un peu mal, mais en revanche, c'est aussi c'est à Rennes, dans ce cadre-là, que Moondog rencontre Stéphane Escher et ils vont travailler ensemble. On écoute le fruit de cette collaboration.
Si j'avais un manche ouvert, c'est mon libac. On se freine les abom, cookies park, on se mise hans yokali à Nettenberg. Si j'avais un manche ouvert, n'aime pinim si. Maner minnet värde för humma stirben i und stirben i för humma så lämna mitt grav i min spyrlig skarte det stöts vid jung i bön. Skatte, der andre nageli. Moi skatte, die sie süß und nageli sie rät.
meinem Lied versuche, dass man nie vergesst. Hab dich noch nicht vergessen, hab immer an dich gedacht. Es ist nur 2 Jahre vergangen, dass mich an dich erkennt. Dort unten in der Tiefe, dort steht es Mühlirat. Das Malen nicht aus Liebe, in Nacht und auch wie Tag. Das Mühlirat ist gebrochen und Liebe hat sind. Wenn 2 voneinander scheiden, dann gehen sie in andere Tänze.
Stéphane Echer dans La Belle Pop sur France Musique avec Googie's Burglied, titre arrangé par Moondog, Henri Cornu.
Oui, un traditionnel suisse arrangé en 89 sur My Place. Donc, fruit de la rencontre improbable entre Stéphane Echer et considère toujours Moondog comme un mentor. Et ce qu'on peut éventuellement rajouter, c'est que je pense sincèrement, pour l'avoir rencontré et passer du temps avec lui et préparer le concert du 11 juin à Fourvière où il interviendra, Stéphane Echer est vraiment une des personnes en Europe à avoir le plus fait pour faire découvrir et promouvoir la musique de Moondog.
Vous l'avez mentionné, Amaury, l'agenda des semaines à venir est chargé puisqu'il y a évidemment des événements autour du centenaire de la naissance de Moondog. Le premier d'entre eux, dans le temps, c'est la conférence que vous allez donner jeudi 26 mai, pile le jour du centenaire de Moondog. Ce sera à 19h à la médiathèque musicale de Paris.
Oui.
Et ce concert, dans le cadre des Nuits de Fourvière, à Lyon, qui a lieu le 11 juin avec une affiche exceptionnelle.
Oui, c'est effectivement... c'est un concert absolument immanquable pour tout curieux ou fan de Moondog, puisque Richard Robert et les Nuits de Fourvière font un très beau cadeau à sa musique. L'album intégral du Philharmonique de New York de 69 sera joué. Ça n'a jamais eu lieu depuis 89, lorsque Philip Glass le réinvite à New York. Stéphane Echer sera présent, Dominique Ponty, la pianiste qu'on a écoutée à Arles, Stéphane Lakatos, le disciple de Moondog, Raphaël Lambert au saxophone et l'ensemble Minissime que j'ai fondé il y a 3 ans, donc un ensemble pour cordes et percussions. Tout ça pour célébrer la musique de... Katia Labeck et ses musiciens en deuxième partie de soirée.
Le 11 juin donc, à Lyon, dans le cadre du festival Les Nuits de Fourvière. J'invite les auditeurs à se reporter aussi à votre livre Moondog, paru aux éditions Le Mot et le Reste. Un petit mot sur ce qu'on entend, c'est marimba en fond sonore.
Oui, album improbable, encore une fois, pour continuer de montrer qu'il a ce côté touche-à-tout génial. En fin de carrière, en tout cas en fin de vie, Moondog, dans le début des années 90, vieux monsieur qu'il est, enregistre cet album pour ordinateur avec Andy Thomas de Mouse and Mars, qui lui explique que pour jouer sa musique complexe, l'ordinateur est un outil parfait, il est froid, il fera ce que Moondog a en tête. Et donc il produit cet album manifeste contre les mauvais traitements infligés aux aborigènes et où on retrouve justement ces références indiennes, Arapaho et les Poho. Et voilà, c'est encore un autre ovni de plus dans la discographie touffue de Moondog.
On se quitte sur ce morceau de Moondog avec Andy Thomas, Marimba Mondo 2. Merci beaucoup, Amaury.
Merci pour l'invitation. Et si je peux juste rajouter effectivement que vous êtes un journaliste précieux et que l'année prochaine, votre émission me manquera à moi et à beaucoup de mes amis. Merci pour cette invitation et votre travail.
nature survives too. Tan perdido en el páramo, existe nadie alrededor, solo yo. Cometidos en pecados, tu piel tan blanca se siente suave, tus ojos grandes no me dejan de ver, tu aliento fresco al amanecer siempre me abrigas porque eres tan fiel. Tal vez no somos nadie igual, yo miento y tú no. Como un animal es algo sobrenatural, un dolor. Tú y yo, una aparición. Tu piel tan blanca se siente suave, tus ojos grandes no me dejan de ver, tu aliento fresco al amanecer siempre me abrigas porque eres tan fiel.
Du premier album de Maria Ouzbek pour conclure cette émission. Maria Ouzbek, c'est une jeune femme installée à Brooklyn mais qui est née et a grandi à Quito en Équateur et qui elle aussi fait du field recording, on a pu l'entendre sur ce morceau. Au générique de la Belle Pop ce soir, Bruno Rioux-Maillard à la réalisation, Adelino Mello à la technique avec Annick Champagne, Sophie Salio-Mario au droit et Jean-René Bonissant pour le site. Merci à toute l'équipe et rendez-vous dimanche prochain à 20h30 sur France Musique avec le duo Alt en session et en public.